maintenant les ateliers radiophoniques de Canal B.
Canal B, radio curieuse.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes les élèves de 3e E du collège Thérèse Pierre de Fougères.
Nous avons travaillé sur un projet web radio avec nos enseignants mesdames Guernic, Tropé et Gouguet, avec l'aide de Morgane et Léonard de Canal B.
Nous avons choisi 4 sujets de société plutôt sérieux. On s'est penché sur les violences intrafamiliales et notamment celles faites sur les enfants, la maltraitance animale, la culture du viol et le sport business en lien avec les JO de Paris qui arrivent d'ici peu.
Nous avons effectué des recherches, des interviews, recueilli des témoignages, rédigé nos textes et réfléchi à l'habillage sonore de notre émission de radio.
Bonne écoute à tous!
Dans un premier temps, nous allons écouter Ewen, Liam et Noah qui nous parleront du sport business.
Savez-vous qu'il y a un porteur de la flamme olympique, Fougeret, Jean-Louis Fouillard, président de l'association Les Foulées de l'Espoir? On a décidé que c'était une bonne occasion de parler des JO et surtout de l'argent autour de cet événement et autour du sport en général. Tout ça a un nom, le sport business. Mais alors, c'est quoi le sport business, Ewen ?
Le sport business, c'est un terme courant et plutôt récent qui désigne l'ensemble des activités économiques associées à l'industrie du sport. Il englobe de nombreux domaines, allant de la gestion du financement, des clubs sportifs aux contrats de sponsoring, en passant par la commercialisation des droits de diffusion des compétitions sportives, la vente de produits dérivés ou bien encore la construction d'infrastructures. En gros, c'est toute l'économie liée au monde sportif. Comme vous le savez sûrement, la France, et Paris en particulier, va accueillir cet été les Jeux Olympiques, une compétition sportive planétaire qui va rassembler des milliers de personnes. Une autre question est venue dans notre réflexion. Combien la France a-t-elle dépensé pour l'organisation des JO? Et même, est-ce qu'elle va gagner de l'argent avec tout ça?
Les JO vont compter 8,2 milliards d'euros, dont 1,3 milliard pour les ouvrages et les équipements avec le logement des athlètes et les rénovations. Il devrait rapporter à l'organisation 4,4 milliards grâce aux tickets achetés pour assister aux compétitions, à la pub et aux droits de télé, ou encore aux partenariats et aux produits dérivés. Cela va rapporter au secteur du tourisme 2,8 milliards d'euros. Mais le gouvernement ne sait pas encore quel essor économique vont insuffler les JO à la France. Les infrastructures seront-elles réutilisées par les Français et les Françaises, Noah ?
Après les JO, les centres sportifs et les logements devraient être rendus aux Français. Toutes les infrastructures perdureront et pourront être utilisées par les habitants, comme la piscine olympique, la piste de VTT, le palais Omnisport, le stade et plein d'autres selon Europe 1. Les Français et Françaises, enfin surtout les Franciliens, pourront bénéficier du nouveau réseau de transport conçu pour les JO. Avec tout l'argent brassé par l'organisation de cette compétition, combien les acteurs principaux vont-ils percevoir ?
Combien les athlètes peuvent-ils gagner aux JO, Liam ?
Alors ça, c'est une excellente question, Ewen. En fait, les athlètes ne sont pas payés par le Comité International Olympique. Pour information, le CIO, Comité International Olympique, c'est l'organisation qui a pour but de promouvoir les JO à l'international. Concrètement, les sportifs et sportives qui représentent la France ne sont pas salariés, donc ils ne perçoivent pas de salaire de la part de la France. Leurs gains sont uniquement dus à leur performance pendant la compétition et aux médailles qu'ils remportent. Si on remporte l'or, on gagne 65 000 euros. Si on remporte l'argent, on empoche 35 000 euros. Et pour le bronze, c'est 15 000 euros. Ces sommes sont soumises à l'impôt. Selon sa nationalité, l'or ne vaut pas la même chose. Ainsi, en Espagne, un ou une médaillée d'or gagnera 94 000 euros. En Côte d'Ivoire, seulement 15 000 euros. Il y a aussi les fédérations qui donnent de l'argent. Par exemple, si un athlète ne remporte pas de médaille, sa fédération va quand même lui verser une certaine somme d'argent. S'il est kayakiste, ce sera de la part de la Fédération des kayakistes, la FFCK, Fédération Française de Canoë-Kayak. En plus des primes potentielles en cas de victoire, les athlètes ou tous les sponsors qui les accompagnent au quotidien, en leur versant une certaine somme d'argent, en fonction de critères comme la popularité, les résultats et l'image. Les athlètes ont aussi l'aide des sponsors qui vont soit leur donner de l'argent car ils portent leur marque sur leurs vêtements, soit leur donner des cadeaux en fonction de ce qu'ils vendent. Exemple, un marchand d'eau va fournir des bouteilles d'eau à son athlète.
J'aime ces moments-là. On est là, tous ensemble. Des ballons sur le sol. Des regards qui se croisent. C'est toujours les mêmes gestes.
D'abord la jambe gauche. Toujours. Chaussettes. Chaussures. Puis la jambe droite.
Enfin, les fédérations sportives peuvent aider les sportifs. Mais il existe de nombreuses inégalités entre elles. Par exemple, c'est quand même fou de se dire qu'une personne qui fait une discipline ultra complexe comme le décathlon, c'est-à-dire un 100 mètres, du saut en longueur, du lancer de poids, du saut en hauteur, un 400 mètres, un 110 mètres haies, du lancer de disque, du saut à la perche, du lancer de javelot, et enfin un 1500 mètres, ouais, pas moins, percevra beaucoup moins d'argent qu'un des joueurs d'une équipe de foot olympique. Tu le savais toi, Ewen ?
Oui, en effet, j'ai pu voir ça en faisant mes recherches. Les différences de salaire entre les sports peuvent être énormes. Par exemple, le sport le moins bien payé des JO, c'est comme tu l'as dit, le décathlon. C'est le sport le moins bien payé des JO en raison des équipements qui coûtent cher et des déplacements. Toutes ces choses sont déduites du salaire des athlètes. En revanche, dans le football et notamment la Ligue 1, le championnat des meilleures équipes en France, le salaire moyen est de 67 000 euros brut mensuels. Enfin, ça c'est sans compter sur l'équipe du PSG, Paris Saint-Germain, qui fausse complètement la donne avec les salaires astronomiques de ses joueurs. Si on rajoute les salaires du PSG, le salaire mensuel des joueurs de Ligue 1 augmentera à 100 000 euros.
Si c'est Paris, on allait au Messi. Pareil, c'est magique pour ceux qui ont du bif. J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4-3.
Il y a une grande inégalité entre les différents sports. Aussi, au sein du même pays, il n'y a pas que ces inégalités, il y a aussi de l'injustice entre les hommes et les femmes. Pas vrai, Noah ?
En effet, la différence entre les hommes et les femmes dans le sport est assez conséquente. Par exemple, dans la Ligue 1 de foot, les hommes peuvent gagner 6 millions mensuellement bruts comme Mbappé ou Messi avec ses 3 375 000 l'an passé. En comparaison, les femmes touchent mensuellement 50 000 euros pour Marie-Antoinette Katoto, l'une des meilleures joueuses en D1 Arkema, le championnat de France féminin, soit 120 fois moins que Mbappé. Tous ces chiffres sont des estimations que vous pouvez retrouver sur le site du journal L'Équipe.
Je suis meilleur que tous les mecs.
Les gars, regardez ces pichons. J'ai d'autres projets pour toi, figure-toi.
J'ai été appelée pour l'équipe de France.
Je suis trop fière de toi.
Tu veux que ça me foute ? Vas-y, dégage.
Tu vaux rien, regarde-moi, ça crève les yeux, t'as même pas le niveau.
Il y a tout à construire encore pour le football féminin en France.
Pour moi, ce qui vient de se passer là, c'est l'échec d'un système. Comment vous voulez qu'on fasse le poids face à des joueuses qui sont pros, alors que nous, on n'est même pas payés ? Qu'on s'entraîne jusqu'à pas d'heure le soir après avoir bossé toute la journée pour gagner notre vie ? C'est un manque de considération totale de la part de la Fédé. Et après, vous attendez des résultats de nous ? Mais c'est complètement hypocrite ! Dans les médias, il y a un autre discours. Oui, le foot féminin, c'est l'avenir. Mais factuellement, il n'y a rien et rien ne bouge. Donc qu'est-ce qu'ils attendent pour nous donner notre statut de joueuse professionnelle ?
Ces mots-là, ce sont vos mots, Marinette, que vous avez prononcés en 2007, l'année où vous arrêtez votre carrière. Mmh. 16 ans après.
C'est toujours les mêmes mots.
C'est toujours les mêmes mots. Et il n'y a toujours pas de statut professionnel pour les footballeuses en France.
Non, toujours pas.
Certains sports, comme le tennis, laisse place à l'égalité homme-femme et d'autres sports comptent 80% de femmes comme dans l'équitation ou la gymnastique. Des sports sont considérés comme masculins. 20% des femmes seulement participeront aux sports olympiques, tir à l'arc ou rugby.
Donc comme nous l'avons constaté, le sport est un immense secteur qui ramène des milliards d'euros. Pour autant, des inégalités persistent à travers les différentes disciplines. L'exemple des JO nous a permis d'observer que nous allons peut-être perdre plus d'argent en organisant les Jeux Olympiques.
les sportifs vont avoir une certaine somme grâce au JO, mais aussi avec la fédération qui est plus ou moins célèbre, tout comme le sport. Par exemple, le foot est plus célèbre que le canoë-kayak qui va rapporter moins. Même si les médailles des JO rapportent la même somme pour chaque sport, seul l'État peut mettre en place le prix des médailles. Outre les JO, les sports en général présentent des différences de salaire en fonction du genre et de la popularité du sport. Les infrastructures utilisées aux Jeux Olympiques seront réutilisées par les Français, comme le stade ou la piscine olympique. Un nouveau réseau de transport sera également présent pour les Franciliens.
Nous sommes mi-avril, il reste une centaine de jours avant l'ouverture des JO et on peut se demander si l'on sera prêt, si la Seine sera dépolluée, si les transports fonctionneront bien, si la sécurité sera totalement assurée. Bref, on espère que tout ira bien et que nos athlètes seront au rendez-vous.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci à vous, Ewen, Liam et Noah. Ce fut très intéressant. Maintenant, écoutons le sujet de Émilie, Yaël, Zoé et Clémentine, la maltraitance animale.
Bonjour, nous sommes Émilie,
Clémentine,
Yaël
et Zoé.
En discutant de nos animaux entre nous, nous nous sommes rendus compte qu'ils avaient presque tous un point commun. Ils avaient été soit abandonnés ou soit maltraités par leurs anciens maîtres. On s'est alors posé la question, est-ce que c'est si fréquent ? Quand on pense à la maltraitance animale, ce qui vient à l'esprit de la majorité des gens, ce sont les élevages et les abattoirs, le cirque et aussi les zoos. Mais c'est bien plus commun que cela, puisqu'elle touche nos animaux de compagnie. Et cette forme de maltraitance est moins médiatisée, c'est donc pourquoi nous avons décidé d'en parler à l'antenne aujourd'hui. Alors vous allez vous poser la question, c'est quoi exactement la maltraitance animale ? Peux-tu nous donner plus d'informations, Yaël ?
Nous sommes allés chercher la définition juridique sur le site planeteanimal.com, qui définit la maltraitance animale comme le fait de subir à un animal des conditions de vie inappropriées, douloureuses ou indignes. La maltraitance animale est une action qui implique de la souffrance, de l'humiliation, une douleur physique ou psychologique d'un animal domestique ou sauvage.
Attends Yaël, c'est quoi la différence entre un animal domestique, un animal sauvage, apprivoisé ou de compagnie ?
Un animal sauvage est un animal qui n'a subi aucune modification ou sélection de la part de l'homme, à l'inverse de l'animal domestique comme le chien mais aussi le rat ou la poule. L'animal apprivoisé peut être sauvage ou domestique, il a simplement appris à vivre avec l'homme. Quant à l'animal de compagnie, c'est un animal que l'homme détient pour son agrément, c'est-à-dire pour son plaisir, il n'est pas forcément toujours apprivoisé.
Maintenant qu'on a éclairci tout ça, intéressons-nous aux animaux domestiques. Zoé, peux-tu nous rappeler qui ils sont ?
En France, les animaux domestiques sont les poissons au nombre de 29 millions. Les chats qui sont près de 15 millions. Les chiens un peu moins nombreux, puisque seulement 7,6 millions. Les oiseaux de basse-cour, 11,2 millions. Il y aurait aussi presque 6 millions d'oiseaux type perruche ou canari. Du côté des animaux de terrarium, ils sont 2,1 millions. Et il y a 2,9 millions de petits mammifères comme le hamster, lapin, rat, etc. Ça, ce sont les chiffres de 2022 selon FACO.fr. Si on fait le total, ça fait 73,6 millions d'animaux de compagnie. Vous savez combien de Français on est ? 68 millions. Waouh ! Vous vous rendez compte qu'il y a plus d'animaux domestiques que d'êtres humains en France.
Savez-vous, les filles, que les maltraitances animales sont punies par le code pénal ? Les maltraitances envers un animal domestique ou un animal tenu en captivité peuvent être signalées à la gendarmerie, au service vétérinaire de la DDPP, Direction départementale de la protection des populations, ou à une association de protection animale. Clémentine, pourrais-tu nous donner des informations sur les peines encourues pour de la maltraitance ?
Alors, maintenant que l'on sait ce qu'est la maltraitance animale, on va voir quelles sont les sanctions. Lorsque de la souffrance a été réalisée, peu importe l'animal, on encourt 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende, d'après le site gouvernemental Lazy France.
Yael, y a-t-il des associations, groupes ou autres, pour aider et lutter contre la maltraitance animalière ?
Oui, il y a des associations qui ont été créées pour lutter contre la maltraitance, la SPA, Société Protectrice des Animaux, 30 millions d'amis, L214, PETA. Leur but est de lutter contre la maltraitance en faisant des actions comme le fait la SPA, en ayant déjà un refuge chaleureux où il y a de la nourriture, des soins, où ils peuvent être logés et répondre à toutes les autres besoins. en ayant un espace destiné à informer le public de tous les sujets liés à la lutte contre la souffrance animale. Dans cet espace, tout le monde peut venir signaler un cas de maltraitance par le biais d'un formulaire de signalement confidentiel et anonyme. Le tout premier refuge de SPA a été ouvert en 1903 à Gennevilliers, après un appel lancé en 1881 par Guy de Maupassant. Ça, on le tient du Mag des animaux et du site ensemblepouranimaux.org. Il y a d'autres actions plus marquantes, ce sont celles de L214 qui filme ou fait filmer les atrocités que l'on peut parfois voir dans certains abattoirs ou élevages, des vidéos chocs qui font réagir.
Nous sommes allés rencontrer Stéphanie Roussel, coprésidente de l'association Chasse en Toit Fougeray. On vous propose d'écouter son interview.
Bonjour, nous sommes des élèves du collège Thérèse-Pierre, Zoé, Yael, Émilie et Clémentine. Nous vous avons contactés pour vous poser des questions à propos de la maltraitance animale. Acceptez-vous d'y répondre ?
Tout à fait.
Pouvez-vous vous présenter ?
Alors moi, donc, je suis Stéphanie Roussel, coprésidente de l'association, qui a été créée il y a 6 ans maintenant, en 2018. Donc, avec ma bénévole Béatrice, qui est elle, coprésidente trésorière, moi je gère la trésorerie, entre autres, et puis nous sommes actives également toutes les deux sur le terrain. Moi je me suis lancée dans la protection animale un petit peu par hasard il y a 6 ans, puisque j'ai commencé en tant que famille d'accueil, en fait, tout simplement pour des chats en fin de vie.
En quoi êtes-vous investi dans la maltraitance animale ?
En fait, depuis justement la création de l'association, on a pris en charge environ 1000 chats, donc ce qui représente un nombre très conséquent. Sur Fougères, en fait, on avait énormément de foyers de maladies type leucose, FIV, etc., des maladies très virulentes. Et en gros, il y avait beaucoup de détresse animale. Donc la maltraitance animale, en fait, ça commence par l'abandon, mais pas que, en fait. Ne serait-ce que ne pas connaître et respecter l'animal. Le chat, c'est un félin, donc c'est assez particulier. Ils peuvent avoir des comportements que les gens ne comprennent pas forcément. Et c'est vrai que ça débouche des fois à des comportements complètement irrespectueux envers l'animal.
Quels sentiments ressentez-vous quand vous récupérez des animaux qui ont été maltraités puis abandonnés ?
Bah, les sentiments, c'est un peu l'échelle émotionnelle. On passe par souvent la colère, en fait. L'impuissance aussi, puisque bien souvent, quand on nous contacte, on arrive, il est trop tard, en fait. Hein. Donc, bien souvent, les chats qui sont en très grande détresse, nous, on n'a pas le droit de mort sur un animal. C'est le vétérinaire seulement qui juge de l'état général du chat. Et à son bon vouloir et au nôtre, bien sûr, mais on est obligé de prendre des décisions qui sont pas forcément faciles. Donc le sentiment, c'est toujours le même, en fait. On répète chaque année qu'il faut stériliser. La stérilisation, c'est très important parce que les chats prolifèrent énormément, en fait. Elles peuvent quand même engendrer 3 portées par an. Voilà, donc c'est très très problématique. En France, c'est très problématique.
Dans quel état sont les animaux quand vous les récupérez ?
Alors c'est assez variable. Alors comme je disais tout à l'heure, il y en a qui sont dans des états, voilà, bien souvent en fin de vie, ou qui présentent des symptômes assez graves, comme des gingivostomatites sur des chats FIV+ ou leucose qui ont des problèmes d'immunité. Après cela, bien souvent, malheureusement, leur durée de vie, elle est très limitée. Ensuite, après, là, on va entamer la période estivale. Donc là, on va avoir beaucoup d'abandon. Même si on en a tout le long de l'année, là, ça va être assez conséquent. Les chats adultes aussi qu'on récupère, puisque beaucoup sont abandonnés à l'âge de 6-7 mois, en fait. Donc on recueille aussi beaucoup de chats juniors, adultes, enfin de tout âge en fait. Et l'état des chats, ça dépend. Les chatons souvent présentent des coryzas, certains sont en bonne santé, d'autres pas. Tout dépend à quel stade ils sont sortis de la rue en fait.
Vous récupérez combien d'animaux maltraités environ ?
Maltraités, on dirait à peu près 25%. Puisqu'on est incapable d'estimer si ce sont alors malgré les recherches qu'on lance sur les réseaux sociaux, quand on trouve un chat pour retrouver les propriétaires, notamment Fougère et moi, les Patent Cavale 35, Pet Alert, la plupart du temps, donc on n'a jamais de retour des potentiels propriétaires. Donc on peut supposer que c'est des abandons, ce sont des abandons. Donc on va dire à peu près 50% quand même.
Est-ce que vous récupérez d'autres animaux que des chats ?
Non, on se contente pour le moment uniquement des chats, ce qui est déjà très conséquent.
Que faites-vous des chats que vous retrouvez si le propriétaire n'est pas trouvé ?
Alors déjà, on les met à l'abri, en quarantaine, dans des familles d'accueil. On en a à peu près 19 actives en ce moment. Ils voient évidemment un vétérinaire pour établir un petit bilan de santé. Et en fonction de l'état général, donc ils sont soit remis en règle, donc identifiés, stérilisés, déparasités pour les chats libres, entre guillemets, qui vont retourner à la rue, ceux qui ne sont pas sociables. Les chats sociables, par contre, ils seront, eux, proposés à l'adoption. Donc voilà, avec une mise en règle totale, hein, testés, vaccinés, identifiés, stérilisés. Et voilà, donc certains sont placés en famille d'accueil longue durée aussi. Ces chats qui sont bien souvent en fin de vie ou qui ont des pathologies assez lourdes et bien souvent qui ne trouvent pas d'adoptant en fait. Ceux-là sont placés en famille d'accueil longue durée. Donc nous, on prend la charge en fait jusqu'à la fin de vie, entre guillemets.
Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut adopter un animal pour éviter la maltraitance ?
Alors déjà de bien réfléchir à la responsabilité que ça représente. Un animal, en fait, c'est du soin quotidien, on va dire. Il a besoin de présence. Il y a les absences aussi. Si les gens sont absents de manière répétée, ça va peut-être pas forcément convenir à l'animal, à son bien-être. Faut réfléchir à pas mal de choses, le budget aussi, puisque l'adoption c'est pas un acte anodin, ça représente quand même des responsabilités, et effectivement c'est un budget quand même à l'année, puisqu'il faut quand même comprendre le nourrissage, litière, les soins si nécessaire. Donc il faut que ce soit assez, modéré en fait. Voilà, il faut pas éventuellement succomber aux avances des enfants qui souhaitent un animal et qui, bien souvent, la plupart du temps, ce sont les parents qui s'en occupent. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Mais de rien, c'est moi qui vous remercie.
Petite précision, le nombre de chatons par portée est d'environ 4 à 6 chatons, mais il y a aussi fréquemment des portées de 1 ou 2 chatons.
Pour conclure, avant de prendre un animal domestique, il faut bien réfléchir. Ça demande du temps, du soin, de l'argent. Ce n'est pas anodin. Heureusement, la législation a changé, notamment en France, pour protéger les animaux, et on voit même des gens condamnés pour maltraitance animale. La maltraitance est un sujet très important à prendre au sérieux. Il faudrait que les gens en prennent vraiment conscience.
Merci beaucoup les filles pour ce sujet.
Pause musicale dans l'émission des 3e E du collège Thérèse-Pierre de Fougères. On va écouter le titre « Danse » de Zoln.
Danse avec moi, slide avec moi, je suis celui qui te faut, toi zéro défaut. Danse avec moi, slide avec moi, je suis celui qui te faut, toi zéro défaut. J'arrive dans la te bois, et pourtant je ne vois que toi. Et parmi toutes ces connes, pourtant je ne vois que toi. J'arrive dans la te bois, et pourtant je ne vois que toi. Et parmi toutes ces connes, pourtant je ne vois que toi. Baby, je m'approche doucement, je suis pas comme tout à l'heure. Je t'offrirai du bon temps, force pas à dire adieu. Attends-moi un instant, j'ai le crâne un petit peu houleux. Écoute attentivement, je détourne l'envie de te finir au pieux. Danse avec moi, slide avec moi, je suis celui qui te faut, toi zéro défaut. Danse avec moi, slide avec moi, je suis celui qui te faut, toi zéro défaut. Danse avec moi, slide avec moi, je suis celui qui te faut, toi zéro défaut. Danse avec moi, slide avec moi, je suis celui qui te faut, toi zéro défaut. Je t'emmène dans la vie, je réserve une villa, on se contentera bien du pavillon, je suis tellement bien. Je te donne des papillons, on pèsera jour et nuit, pour moi t'es comme une addiction. Non, là je suis comme animal, je veux juste faire du sale. Assez parlé, je t'ai emmené mort, j'ai maintenant rien que toi. Et on vient refaire avec moi, livre qui se finit en A. Je te promets un pour après, mais ce soir ça se passe chez toi. Baby, je m'approche doucement, je suis pas comme tout à l'heure. Je t'offrirai du bon temps, on force pas à dire adieu. Attends-moi un instant, j'ai le crâne un petit peu houleux. Écoute attentivement, je détourne l'envie de te finir au pieux.
C'était Danse de Zoln sur Canal B dans les ateliers radiophoniques. Retour avec les élèves de 3e E du collège Thérèse-Pierre de Fougères.
Poursuivons notre émission avec un sujet sensible, les violences intrafamiliales, présentées par Léo, Noam, Mathis, Aaron, Léo, Emeraud, Hector et Mohamed.
Il y a un mois, Paolo est arrivé au collège avec des bleus sur les bras. On lui a demandé pourquoi il avait ces hématomes, il ne nous a pas répondu. On a insisté, il nous a dit que c'était son père qui le frappait. En fait, il n'y a pas de Paolo dans notre collège. Pourtant, cette histoire pourrait être vraie. Elle est vraie dans un tas d'établissements scolaires partout en France.
Car il y a environ 41 000 mineurs qui ont osé porter plainte pour maltraitance en 2021. Ce qui veut dire que ce chiffre doit sûrement être plus élevé.
Mais c'est quoi les violences intrafamiliales ? C'est quand un père frappe son fils ?
Oui, mais pas que. Les violences familiales, selon le site de l'association Action France, sont des violences au sein de la famille et du foyer. Elles commencent souvent par des violences conjugales, donc au sein du couple, et peuvent s'étendre également sur les enfants.
Il y a quoi comme violence ?
Il y a différents types de violences. Les violences sexuelles, physiques, psychologiques et socio-économiques.
C'est quoi une violence socio-économique ?
Une violence socio-économique, c'est empêcher l'enfant de faire une activité sans aucune raison. C'est-à-dire que les parents ne manquent pas d'argent, ils veulent faire souffrir leurs enfants.
Ça vient d'où ces violences ? Pourquoi il y a des violences dans les familles ?
D'après un article que l'on a trouvé dans le journal Le Figaro, il y a plusieurs causes possibles, comme la rupture familiale, le manque de soutien social, les problèmes d'argent, les problèmes de santé mentale et les abus d'alcool ou de drogue.
Le manque de soutien social, c'est-à-dire ?
Le manque de soutien social, c'est le manque d'attention. Ne pas être valorisé, avoir peu ou pas de personnes sur qui on peut compter.
J'imagine que lorsque l'on subit de la violence familiale, on n'en sort pas idem de ça.
Oui. Hélas, il existe de nombreuses conséquences. Les plus courantes sont l'anxiété, les cauchemars, le stress et les traumatismes transgénérationnels.
Tu peux m'expliquer ce traumatisme transgénérationnel ?
En fait, le traumatisme transgénérationnel, c'est une notion assez simple à expliquer. C'est l'impact d'un transfert d'une douleur émotionnelle, physique ou sociale dont une personne souffre à un moment donné qui se transmet aux nouvelles générations sans vraiment qu'on s'en rende compte. Il faut donc imaginer, hélas, que de nombreux adultes et enfants vivent avec ces traumatismes et ces douleurs au quotidien.
On l'a dit, il y a des tas de Paolo dans tous les établissements scolaires de France. Afin de pouvoir vous en rendre compte de la violence qu'ils subissent dans leur quotidien, nous vous laisserons avec le témoignage de l'un d'entre eux.
Ça a commencé quand j'ai eu 3 ans, après la séparation de mes parents. J'ai commencé à souffrir de la violence de mon père. J'ai surtout été témoin de sa violence sur mes demi-sœurs, après qu'il a eu refait sa vie. Et il ne s'agissait pas de simples claques. Je me rappelle surtout de ce jour où, sans aucune raison, il a attrapé l'une de mes demi-sœurs par le col de son maillot. Il l'a plaqué contre le canapé et lui a infligé ainsi des coups de poing, à plusieurs reprises, jusqu'à ce que sa conjointe intervienne. Un autre jour, un midi d'été, nous mangeons des moules à table. Ma demi-sœur, dégoûtée par la vision du coquillage, ne voulait pas manger. Mon père, qui était sûrement alcoolisé, l'a forcé à manger. Si seulement ça s'était arrêté là. D'un coup, elle a vomi. Mon père lui a mis une claque, a pris son assiette remplie de vomi, l'a posée dans le garage et a fermé à clé en lui disant de finir son vomi sinon elle ne sortirait pas du garage. Après la violence physique, il y a eu les humiliations devant tout le monde. Un soir, nous étions en train de manger entre enfants. Mon père se trouvait dans le salon. Une petite bagarre d'enfants, comme il y en a dans toutes les familles, a éclaté entre deux de mes demi-sœurs. Une autre de mes sœurs est allée voir mon père pour lui en faire part. Mon père est arrivé, sans dire un seul mot, et il est passé derrière elle. Il a pris la tête de l'une d'elles et lui a mis dans l'assiette. Je n'étais pas du tout prêt à voir cela. Je ne l'ai qu'un week-end sur deux. Il lui a appuyé la tête dans l'assiette pendant une bonne minute, puis lui a relevé. À ce moment-là, ses sœurs se sont mises à rire. Je me serais cru dans un cirque. Mon frère et moi étions les seuls à ne pas comprendre et à ne pas rire. Mon père était violent, mais avait surtout une emprise mentale sur chacun d'entre nous. Un jour, ma maman a voulu agir et a appelé les assistantes sociales. Elles sont donc venues chez mon papa pour interroger mes demi-sœurs, ainsi que mon frère et moi. Avant que les assistantes sociales n'arrivent, ma belle-mère et mon père nous ont briefé mes demi-sœurs et moi, en nous mettant une pression psychologique. Ils nous disaient que si on racontait la vérité, on n'allait plus les revoir et que mes sœurs devraient partir en foyer à cause de moi. Pour eux, mon père et sa nouvelle femme, c'était l'enfer, cette visite des services sociaux. Pour moi, c'était enfin la liberté. Les éducateurs sont donc venus et nous ont interrogés comme convenu. Personne, ni mes sœurs, ni moi, n'a parlé. Même moi, je n'ai pas osé parler, car je ne pouvais pas trahir mon père. Le système français de protection des enfants est très mal fait. Les acteurs sociaux vont venir, sur rendez-vous, pour observer le mode de vie d'une famille et interroger les enfants, et si aucun d'entre eux n'ose parler, l'affaire est glacée sans suite. Et quand les enfants osent parler, ils ne sont pas forcément écoutés et pris au sérieux, notamment à cause de l'emprise mentale que les parents exercent sur eux. Ces violences ont créé chez moi une colère à vie, mais également des peurs dont je ne pourrai jamais me débarrasser. La peur de demander à mon beau-père une chose simple, par exemple parce que j'ai peur de sa réaction. La peur d'assumer mes bêtises et erreurs d'adolescent, par crainte de la réaction du père. Alors je cache, je mens. Chacun a un ressenti différent et éprouvera des sentiments différents selon son traumatisme. La colère, la tristesse, la peur, la honte. La violence au sein de la famille laisse des traces à vie. Je tiens à préciser que cela est du passé, mais je lui en voudrais toute ma vie. Depuis, j'ai coupé tous les ponts avec lui.
Un grand merci les garçons. Et pour finir, un autre sujet sensible, la culture du viol traité par Margot, Axel, Faustine, Jeanne, Zoé, Tilio, Chad, Laurine et Ludou.
Est-ce que la tenue justifie le viol ? Cette phrase de notre camarade de classe Lilou nous a fait réagir. En y réfléchissant, en faisant des recherches, on s'est aperçu qu'elle faisait partie de la culture du viol. C'est le sujet que l'on a choisi de traiter dans notre émission de radio. Alors, c'est quoi la culture du viol ?
La culture du viol, on peut dire que ce sont tous les comportements qui banalisent, excusent et justifient les agressions sexuelles, dont la pire d'entre elles, le viol. Tout ça à travers des plaisanteries et du divertissement. Le corps des femmes est considéré comme un objet destiné à convenir aux besoins des hommes. Dès l'enfance, le corps des petites filles est sexualisé. Les adultes ont des collections unisexes alors que les enfants, non. C'est très genré pour eux. Une étude menée par la journaliste allemande Marie-Louise Timk dans le quotidien national allemand Süddeutsche Zeitung, dans laquelle 20 000 vêtements pour enfants de moins de 10 ans ont été analysés, a notamment démontré que les shorts des petites filles sont plus courts et plus moulants que ceux des garçons. Tout est évoqué, les couleurs, les coupes, etc. Et à la fin, le verdict est que la mode enfantine actuelle consolide les représentations de genre. Si on s'intéresse aux couleurs de ces vêtements pour enfants, la couleur dominante chez les garçons est le bleu, tandis que chez les filles, c'est le rose. Ce vieux cliché que l'on croyait dépassé est toujours affirmé par les marques de vêtements. Et ça contribue à maintenir les discriminations contre les filles et à faire de leur corps, dès leur plus jeune âge, un objet sexuel.
L'étude de Marie-Louise Timke a également permis de constater que c'est la même chose côté imprimé, motif et haut de flocage. Côté filles, les mots les plus utilisés sont love, girl, sunshine, smile ou encore dream, autrement dit, le vocabulaire de la parfaite rêveuse. Du côté des garçons, les mots utilisés sont plus souvent reliés au sport, notamment le surf avec wave, fast, explore, aloha, coast ou crew. La mode enfantine nourrit bel et bien certains stéréotypes qui ne devraient normalement plus exister. Le plus choquant dans cette étude reste ce qu'elle révèle de la longueur des shorts pour les enfants de moins de 10 ans. Ceux des petites filles sont plus courts de 6 cm, c'est choquant, oui, et dérangeant aussi. Cela veut dire que dans la tête des fabricants de ces vêtements, les filles sont avant tout des petites femmes et que leurs vêtements, même avant 10 ans, sont là pour qu'elles séduisent, qu'elles correspondent à une norme où leur corps doit être vu.
Est-ce que ça bouge après ? Est-ce que les filles sont plus tranquilles à l'adolescence ? Non, ça continue, mais là c'est l'inverse, on leur demande de se cacher, mais pas trop non plus. À l'adolescence, certains adultes voudraient imposer des tenues républicaines aux collégiennes et lycéennes. Une tenue républicaine est une référence à une façon correcte de s'habiller, à une certaine sobriété de la matière. D'après l'article The Conversion, les tenues républicaines sont des tenues non dénudées, c'est-à-dire que l'on ne devrait pas montrer nos épaules, nos ventres, ne pas porter de décolleté et de jeans troués. L'expression tenue républicaine a été adoptée par Jean-Michel Blanquer en septembre 2020, alors ministre de l'Éducation nationale.
Il a alors évoqué les tenues simples adaptées au lieu où l'on se trouve, en l'occurrence au lieu public, que l'on partage avec tous et où s'applique le vivre ensemble et le respect d'autrui. Mais apparemment, selon lui, cela voudrait dire « Les filles, on vous a fait porter des shorts trop courts et trop moulants toute votre enfance. Maintenant, il est temps de dissimuler votre peau sous du tissu, sinon vous allez perturber les garçons. » Nous avons découvert sur le site de France Info la réponse idéale à cela. Dite par des lycéennes à Jean-Michel Blanquer, à l'époque, « Il faut éduquer les garçons et non couvrir les filles. » Les lycéens, et plus particulièrement les lycéennes, trouvent que c'est sidérant qu'au XXIe siècle, on leur dise comment s'habiller. Il faudrait mieux éduquer les garçons et les vieux monsieur à se tenir et à ne pas considérer une fille de 14 ans avec un jean troué comme un objet à leur disposition. Il faut les éduquer sur le respect et la sexualité consentie.
Plus tard, quelle que soit la façon dont une femme s'habille, se maquille, se comporte, elle est critiquée et tenue responsable de ce qui lui arrive. Jamais ou trop rarement, on ne considère que le problème pourrait venir de base des hommes. Longtemps, par exemple, on a considéré que les jeunes filles de 14 ans étaient des aguicheuses. Jamais on a pensé que le problème venait des vieux de 40 ans et plus qui s'intéressaient aux filles de 14 ans. C'est ce que Judith Godrej dénonce aujourd'hui, c'est déjà ce que Vladimir Nabokov dénonçait dans Lolita.
Les femmes victimes de viol sont encore trop souvent accusées d'avoir incité leur agresseur à commettre le crime en portant des vêtements provocateurs ou en se comportant de manière indigne. Avant, les hommes et beaucoup de femmes adhéraient à la thèse de la provocation féminine. Les femmes séduisaient les hommes, ils étaient victimes de ces séductrices, jamais coupables de rien et allant même jusqu'à penser et dire qu'un enfant ou une enfant pouvait être provocant. La notion de consentement était inexistante. Une femme devait remplir son devoir conjugal en acceptant toutes les relations sexuelles avec son mari. L'idée qu'un mari pouvait violer sa femme n'existait pas. Les normes sociales de l'époque étaient souvent utilisées pour minimiser les agressions sexuelles. Le livre Lolita de Vladimir Nabokov, paru en 1955, évoque ces sujets d'une intéressante manière pour l'époque. En effet, la société des années 50 était restée dans ce mode de pensée assez malsaine. C'est tout l'inverse que l'auteur a voulu dénoncer. Pour Nabokov, l'enfant Dolores, l'héroïne du roman, la Lolita est la victime. Au moment de la parution du roman, il déclencha beaucoup de polémiques, mais elle reste un classique de la littérature mondiale que l'on lit aujourd'hui différemment. On ne voit plus Dolores Lolita comme la séductrice et Humbert Humbert, le prof et beau-père, comme la victime de la séduction d'une enfant de 12 ans. On voit toute l'horreur de la pédophilie que Nabokov dénonçait.
La culture du viol, c'est tout cela. Croire que Dolores est une allumeuse de 12 ans, que Judith Godrej n'était pas. À 14 ans, sous emprise d'un vieux de 40 ans, c'est faire porter des vêtements courts et moulants à des toutes petites filles. C'est dire aux collégiennes et lycéennes que lorsqu'elles portent un jean troué qui monte un bout de cuisse, un crop top ou les épaules dénudées, elles perturbent les garçons. C'est demander à une victime d'agression sexuelle de viol ce qu'elle portait comme vêtement. Selon le collectif féministe Nous Toutes, 94 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viols chaque année en France. Un chiffre à relativiser qui serait au-dessus en fait, car toutes les femmes ne portent pas plainte. 11% seulement des victimes de viols osent porter plainte en France. 70% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite et seulement 1% des agresseurs des violeurs sont condamnés. 90% des violeurs sont récidivistes. 83% des victimes connaissent leur agresseur. C'est un ami, un mari, un collègue. Contrairement à ce que certains et certaines voudraient faire croire, la personne violée n'est jamais responsable, elle est victime. Si vous êtes victime, si vous connaissez des victimes, voici des numéros à appeler. Pour les enfants en danger, c'est le 119. Pour les femmes victimes de violences, c'est le 3919. Des numéros à retrouver sur le site Canal B.
La victime va devoir aller au commissariat ou à la gendarmerie. Ensuite, la victime se constitue partie civile, ce qui est recommandé. Elle a un ou une avocate et pourra être informée de tous les éléments du dossier, de la procédure. La victime pourra aussi prendre contact avec des associations spécialisées. Après une agression sexuelle, la victime devra consulter un médecin. Ceci est indispensable pour recueillir des preuves, pour aussi faire établir un certificat médical et pour la santé de la victime. La victime peut aussi conserver le linge dans un sac. Si les faits sont anciens, la victime peut s'adresser à une association spécialisée qui peut les aider dans les démarches à suivre.
Les symptômes de stress apparaissent en général le mois suivant de l'agression. La victime a des difficultés à en parler, des pensées intrusives, des images qui tournent en boucle comme des souvenirs traumatisants ou des angoisses profondes. Les syndromes de stress post-traumatique, SSPT, surviennent après quelques semaines, des mois, des années. Ces faisceaux de symptômes, des attaques anxieuses et dépressives, assombrissent la vie quotidienne de la victime. La victime peut par exemple avoir du mal à faire des choses simples comme se lever le matin, sortir dehors, se laver les dents, etc. Si 2 ans après l'agression, il n'y a toujours pas de prise en charge adéquate, des effets anxieux et dépressifs surviennent et changent complètement la personnalité de la personne. Exemple, une personne optimiste et extravertie peut devenir une personne pessimiste et renfermée sur elle-même due à l'agression.
Si le choc de l'agression a été trop violent, le cerveau l'efface pour oublier ce traumatisme. C'est de l'amnésie traumatique. Les souvenirs sont donc enterrés mais ressurgiront des années plus tard. Il peut aussi y avoir un déni, un mécanisme de défense qui se met alors en place. La victime nie la réalité de ce qu'il s'est passé.
La victime doit être entendue et accueillie de façon adéquate après l'agression. La victime a peur de se confesser à cause des dires stéréotypés de leur entourage, comme par exemple « Tu étais habillée, maquillée comment ? À quelle heure es-tu rentrée ? As-tu bu ?» Mais aussi des « porte-plainte, entame une thérapie au plus vite », que cite Catherine Ailiez, psychologue à SOS Viol. Il est essentiel de respecter les besoins et les rythmes de la victime. Le bon moment pour le travail thérapeutique est choisi par la victime.
La majorité des victimes ne demandent pas de l'aide tout de suite après l'agression, dit Céline Jensen, qui a exercé dans un centre de prise en charge des violences sexuelles, le CPVS. Ces violences sexuelles sont associées à de forts sentiments de honte et de culpabilité, dus à par exemple si la victime n'avait pas les épaules découvertes, ce qui a dû provoquer l'agresseur, ce qui met des freins pour demander de l'aide. Certaines victimes mettent en place des stratégies positives ou négatives pour survivre à leur traumatisme.
La parole thérapeutique est principalement basée sur la parole. D'après Joël Delmarcel, la parole psychothérapeutique est un outil qui s'élabore autour d'un pari. Elle sert à faire émerger tout ce qui bloque, rouvrir le champ des possibles vers l'extérieur. La peur est tout à fait normale car c'est une thématique centrale et récurrente. Elle a une fonction protectrice, elle nous paralyse, nous empêche de faire et de vivre certaines choses, source de souffrance.
D'autres approches thérapeutiques. Aller chez un psychologue n'est pas une obligation pour se reconstruire après des violences sexuelles. Il existe plusieurs façons d'exprimer et d'apaiser la souffrance et de surmonter le traumatisme, comme l'écriture, la danse, le sport, la religion, les arts plastiques ou la philosophie. Chacune de ces options ont potentiellement une valeur thérapeutique, explique Catherine Hayet, psychologue chez SOS Viol. Toutefois, il est préférable de manier avec prudence les activités qui impliquent des contacts physiques ou corporels, tels que la danse, le yoga ou le self-défense. La psychologue de SOS Viol déclare que le toucher est une question assez délicate, car le corps a des souvenirs quasiment physiques de l'agression, comme des sensations d'étouffement, d'étranglement, d'oppression, qui peuvent être réactivées ou remontées à la surface suite à un geste a priori anodin.
Yes.
nouvelle pause musicale sur Canal B dans l'émission des élèves de 3ème E du collège Thérèse Pierre de Fougères. On écoute H7 Kim et Sonu 7 avec le titre Célérité, présent sur la Lunaire Tape volume 1.
La peur de perdre mes proches, moi je vis toujours en arrière. Les études dans les poches, je me préoccupe depuis hier. Avancer tout le temps à mes torts, on dit jamais que tu t'améliores. J'étais souvent dans la vérité, certains l'ont vu comme un désaccord. J'avais l'envie, t'es proche de moi dans la vie. J'approche chaque jour de la vie, mes proches et moi dans la ville. J'avais l'envie, t'es proche de moi dans la vie. J'approche chaque jour de la vie, mes proches et moi dans la ville. Dans ma tête, je cherche la bonne idée. J'suis dans l'optique de péter tout en célérité. Mes décisions, toutes celles que j'ai évitées. Toutes celles que j'ai évitées. Dans ma tête, je cherche la bonne idée. J'suis dans l'optique de péter tout en célérité. Mes décisions, toutes celles que j'ai évitées. Toutes celles que j'ai évitées.
Je me pose des questions quand je serai en haut, je te voudrais avec moi. Excuse si on se conserve, on est de concert, mais j'ai pas la même foi. Je contrôle mon temps comme un célébi, je le fais à temps tout en célérité. Je fais semblant à force d'attendre, mais je manque de temps comme une célébrité. Je te laisse en voix, même sans voir. T'as ce truc en plus qui fait que me parler ton devoir. Yeah. Je suis perdu offside. Faudrait qu'on serre, faudrait qu'on soit à des concerts. Faudrait qu'on soit sans mes conseils. Tu veux faire quoi? C'est pas j'en ai marre de notre history. Mais je vois ma tête dans l'historique. Je suis de marre, mais j'avoue que j'ai souri quand j'ai vu que tu m'as mis dans ta story.
Je l'ai perdu dans la noche. J'ai voulu te récupérer pour le mal que j'ai été causé. J'oublie tout et sans vanité. Parle à mes proches, parle en vrai. Je veux apporter que du bien. Je fais qu'approcher la vie de rêve. T'es l'invité tout en vérité. Dans ma tête, je cherche la bonne idée. J'suis dans l'optique de péter tout en célérité. Mes décisions, toutes celles que j'ai évitées. Toutes celles que j'ai, j'en ai l'envie. T'es proche de moi dans la vie. J'approche chaque jour de la vie. Mes proches et moi dans la ville. J'avais l'envie. T'es proche de moi dans la vie. J'approche chaque jour de la vie. Mes proches et moi dans la ville. J'avais l'envie. T'es proche de moi dans la vie. J'approche chaque jour de la vie, mes proches et moi dans la ville. J'avais l'envie, t'es proche de moi dans la vie. J'approche chaque jour de la vie, mes proches et moi dans la ville.
C'était Célérité de H7 Kim et Sonu 7 sur Canal B dans les ateliers radiophoniques.
Radio Curieuse.
Dans cette émission, vous avez pu entendre Money de Pink Floyd, Money, Money, Money de ABBA, les voix de Zinedine Zidane et d'Antoine Dupont. Un match-up Ici c'est Paris avec la présence de Tchakola, Gazo, Nino, Niska, Booba, PLK, Leto, Bendo Z et Freeze Corleone. Just Can't Get Enough de Dépêche Mode, un chant de supporters du Stade Rennais, un extrait du film Marinette et de l'émission C'est à vous avec la footballeuse Marinette Pichon, Just a Girl reprise par Vulvarine, et la bande originale du film Daddy Issues par le groupe The Neighborhood, un film inspiré du livre de Vladimir Nabokov, Lolita.
Faustine et Noam, vous êtes élèves délégués. Madame Guernic, elle dit que vous avez dit des choses au conseil de classe sur le projet radio.
Pendant la préparation du conseil de classe, notre professeur principal, Madame Guernic, nous a demandé quel projet nous a-t-il plu durant ce deuxième trimestre. Toute la classe a répondu positivement sur ce projet de web radio. Les liens de la classe ont été renforcés et l'entraide aussi.
Vas-y Léo.
Bah, c'était bien et drôle. Ouais, aussi travailler avec le groupe.
Pourtant votre sujet, il n'est pas hyper drôle.
Non mais parce qu'on s'entendait bien dans le groupe.
Est-ce que tu trouves que ça a renforcé vos liens?
Bah, ouais, un peu.
Et alors, le projet radio associé au voyage en Angleterre, c'est encore plus soudé vos liens.
Ouais, bah après, je connais un peu tout le monde, donc c'était déjà un peu fait avant, mais ouais.
Noam, t'en penses quoi de ça?
Bah, pareil.
Maintenant, nous allons interviewer Madame Guernic, notre professeure principale, sur ce projet web radio.
Comment avez-vous senti ce projet ?
Bonjour. C'est que j'ai trouvé que ça commençait un petit peu lentement et à partir du deuxième jour, j'ai trouvé que ça prenait forme et jusqu'à aujourd'hui, je suis très satisfaite. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne progression et puis que c'était... Ce que vous avez fait, j'ai trouvé ça super. L'enregistrement, là.
Pourquoi vous nous avez choisi, nous, 3e E ?
Alors, au départ, c'était une autre classe. C'était une erreur, disons, de l'emploi du temps. Et moi, dès le départ, je trouvais que vous étiez une classe avec laquelle je m'entendais bien. J'étais votre prof principale. On partait ensemble en Angleterre. Je trouvais qu'on avait pas mal de choses en commun. Parce que je vous voyais souvent, je vous connaissais bien. Et j'avais envie, j'aurais aimé que ce soit ce projet-là que vous ayez aussi. Et quand l'occasion s'est présentée, ben, paf, je vous ai mis dans la boîte. Et on ne vous a pas laissé le choix. Mais on a changé notre manière de fonctionner pour que vous adhériez au projet entier. Et c'est ce que vous avez fait, en fait. Et ça, c'est super. Et on ne s'est pas trompé. Et ça, c'est bien.
Êtes-vous satisfaite de vos élèves ?
Ouais. Ah, c'est un vrai ouais. De moi ? Aussi, Aaron. Mais je ne dirais pas dans quelle compétence tu as brillé le plus.
Le fou rire ?
Le bruitage ? Ouais, de tous, Ewen. Tous, tous.
Est-ce que vous avez trouvé ça mieux que l'année dernière ?
J'ai vraiment bien adhéré au sujet que vous avez choisi. Je trouve en revanche que c'est très inquiétant que vous ayez tous choisi des sujets lourds. Rien de léger, rien de drôle. Tous très intéressants. Et j'ai trouvé que cette année, vous avez vraiment cherché, et c'était le but en fait, vous avez vraiment cherché des informations. Et chacun des quatre sujets est très intéressant. Très bien documenté.
Moi, je vais vous laisser là, j'ai faim. J'ai très faim.
D'accord, moi aussi. Moi aussi, Léo.
Notre émission est à présent terminée. Nous vous remercions pour votre écoute. Vous pourrez réécouter notre émission mercredi prochain ou bien en podcast sur le site de Canal B dès maintenant.
Nous remercions nos professeurs Mesdames Guernic, Gouguet et Tropé et Morgane et Léonard pour cette semaine.
Merci, à bientôt sur Canal B. C'était Tilio,
Chad,
Léo Le Métayer,
Lilou,
Jeanne,
Zoé Vallée,
Faustine,
Laurine,
Margot,
Axel,
Emeraude,
Matisse,
Clémentine,
Yaël,
Zoé Guérinel,
Émilie,
Noah,
Hector,
Liam,
Léo Pelé,
Mohamed,
Aaron,
Noam,
et Owen.
Allô.
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 Allô, Léa.
Je n'ai pas trop envie ça.
Laura, tu peux la fermer ? On va fermer cette porte au moins. Là, l'enregistrement est lancé, donc Margot, je vous dis pas ce que j'entends dans mes oreilles, ils font de l'ASMR.
Non mais je crois que ça veut dire que tu peux arrêter. Ah, c'est qui ?
Comment tu fais ?
Axel, Faustine, ouais, Ewen. Et essayez de prendre les micros dans cet ordre, parce qu'en fait, moi, la couleur est annoncée sur la console.
Si je suis troisième, je prends rouge.
Ouais, ou en tout cas, c'est là où tu te places. Moi, il me faut vert, jaune, rouge, orange. Ça me facilite la tâche sur ma console.
Bah, le deuxième, c'est tout.
Ça se transforme tout de suite en fou rire. C'est pas grave. Mathis, tout le monde a eu un petit moment de flottement.
T'es rincé. T'es bousillé.
Moi, je vais vous laisser là, j'ai faim. J'ai très faim.
D'accord, moi aussi. Moi aussi, Léo.
Merci, merci. Merci, merci, merci. Ça me touche.
Les ateliers radiophoniques de Canal B.
Canal B, Radio Curieuse.
It's the earth. The earth is my body. My head is in the stars. Who said that?
I don't know.
Te dire que je t'aime. Tu manques que la vie sans toi n'a plus le goût.
Je crois que tu m'assassines des flèches dans la poitrine. Te force pas la main, je sais que tu es mieux que moi. Forcément romantique quand on parle de toi. Des braquages pour qu'on parle de toi. Et moi j'irai faire.